Rendez-vous sur actiondon.fsju.org.
actiondon.fsju.org.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaques. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement. RCJ.
J'ouvre les yeux. Et puis je te vois. Est-ce que tu rêves? Ou est-ce que c'est moi? C'est quoi le jeu? Je sais plus, je sais pas. C'est quoi les règles? Quand tu t'en vas? Et chaque seconde me brûle quand t'es pas là. J'ai fait le tour du monde. Je te cherche à chaque pas.
Quand je vois la nuit se mettre à tomber, le soleil se lève du mauvais côté, je compte les heures, on peut se retrouver, je revois le soleil de ton côté.
Je ferme.
RCJ, à l'écoute de votre vie. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RCJ, il est midi, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition, le journal de Margot Siffer avec les détails de notre correspondante en Israël, Myriam Amman, sur un cessez-le-feu imminent entre Israël et le Hezbollah, mais aussi le portrait par Laurence Goldman de la mère de la policière Clarissa Jean-Philippe, tuée par un terroriste islamiste le 8 janvier 2015, Marie-Louisa Jean-Philippe, dont on a appris la mort ce matin, et enfin la recommandation Expo de Raphaël Alouis, puis ce sera le billet d'humeur d'Aurélien Veil comme chaque mardi. On retrouvera ensuite Julie Guest, directrice de la philanthropie du FSJ, pour faire un point sur Action Don en ce dernier jour de l'opération. Puis on sera en ligne avec Bernard Spitz, fondateur du prix Clara, qui récompense des nouvelles évoquant les préoccupations des adolescents. Il sera remis demain à la mairie de Paris. Autre invité de cette édition, Pierre Requin, artiste peintre. Son exposition Hommage aux victimes du pogrom du 7 octobre est à voir en ce moment à la mairie du 16e. Et en fin d'édition, les recommandations médicales du professeur Tim Sitt, la réflexion philosophique de Gabriel Alpern et l'histoire juive du jour avec Jérôme Attal. On commence par l'actualité de ce mardi 19 novembre.
Le journal Margot Siffer.
Bonjour Margot.
Bonjour Elsa, bonjour à tous. Une femme a été légèrement blessée ce matin par une roquette du Hezbollah sur la Galilée. Au total, 25 missiles ont été tirés en provenance du Liban. Seuls quelques-uns ont été interceptés, a fait savoir le porte-parole de l'armée israélienne. Alors que l'émissaire américain Amos Hochstein est arrivé ce matin à Beyrouth, un éventuel cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah pourrait être proche. On en parle avec notre correspondante sur place, Myriam Amman.
Ça peut paraître contradictoire avec les attaques du Hezbollah, mais ce qu'on sait, c'est que l'envoyé spécial américain Amos Hochstein est arrivé à Beyrouth. Il doit recevoir la réponse du Hezbollah à la proposition de trêve soumise il y a quelques jours. Israël a déjà accepté ses conditions et tous attendent donc la décision de l'organisation terroriste. L'émissaire américain sera demain en Israël pour discuter de la suite. Alors, j'ai pas détaillé ce qui est sur la table. Il y a 11 points stricts dans cette proposition américaine. Sachez juste que dans cette feuille de route, le Hezbollah doit s'éloigner de la frontière israélienne. Ça a retiré ses troupes du Liban. Que l'armée libanaise doit prendre sa place et se déployer dans le sud Liban avec des groupes internationales, dont les casques bleus de l'ONU. Ces prochains jours seront évidemment décisifs sur la suite.
L'armée israélienne a découvert d'importants stocks d'armement russe dans les bastions du Hezbollah. Un major israélien confirme que 60 à 70% des armes saisies dans les premiers jours de l'invasion étaient russes, notamment des missiles et des systèmes de missiles guidés anti-chars. Patrick Martin-Genier, expert en géostratégie, a réagi ce matin au micro de RCJ.
La région est l'objet d'enjeux internationaux avec les grandes puissances. Les grandes puissances sont extrêmement présentes et naturellement, les États-Unis ont toujours été là pour le soutien indéfectible à Israël, les pays de l'Union européenne aussi, le Royaume-Uni également. Mais il est évident que c'est un jeu pour les grandes puissances car la Russie, avec Vladimir Poutine, qui n'a toujours pas terminé sa guerre d'agression en Ukraine, eh bien, est un allié important de ce régime terroriste, la Syrie, n'oublions l'Iran, effectivement. Et donc c'est une façon pour la Russie de dire je compte, je suis là, il faudra compter avec moi pour un éventuel processus de paix. Mais on voit bien aujourd'hui que l'Iran est allié à cette puissance agressive en Ukraine, que les missiles et les drones iraniens sont envoyés en Ukraine. Et donc on voit bien effectivement qu'il y a cette volonté d'intervenir. La Russie avec Vladimir Poutine dit effectivement qu'il faudra compter avec lui, mais attention, à un moment donné, si je dois dire, c'est la Russie qui décidera de l'évolution de la situation au Moyen-Orient. L'Iran est aujourd'hui suffisamment fragilisé sur le plan international. Il y a aussi cette perspective de l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et dans l'entourage du nouveau président américain qui prendra ses fonctions le 20 janvier. Je crois qu'on ne fera aucun cadeau à l'Iran et que ça, les dirigeants iraniens le savent. Et donc, c'est une façon de renforcer, on va dire, la sécurité d'Israël. La Russie le sait également et par conséquent, il est très très important de montrer que l'Iran doit continuer à être affaibli, ne peut constituer une menace perpétuelle pour Israël.
Ça peut parler.
C'est depuis la Knesset que Benjamin Netanyahou a confirmé que la frappe de représailles menée contre l'Iran le mois dernier a non seulement affecté ses capacités de défense et de production de missiles, mais a également touché un composant spécifique de son programme nucléaire. Il précise que cela n'a pas pour autant bloqué la voie de Téhéran vers l'arme nucléaire. Téhéran qui réaffirme d'ailleurs ce matin son intention de riposter à la dernière frappe israélienne. Le ministre israélien des Affaires étrangères a adressé hier une lettre au président du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'appelant à une intervention urgente concernant les activités des milices pro-iraniennes qui utilisent le territoire irakien pour mener des attaques contre l'État hébreu. Gideon Sarr souligne que ces milices font partie des forces de mobilisation populaire, soit un réseau paramilitaire parrainé par l'État irakien et opérant sous les directives de l'Iran. Il invoque le droit de l'État hébreu à l'autodéfense tout en demandant au Conseil de s'assurer que le gouvernement irakien respecte ses obligations envers la charte de l'ONU et le droit international. L'armée israélienne a annoncé hier la livraison de 1000 unités de sang à l'hôpital Al-Sharaba dans le nord de Gaza via le point de passage d'Erez. Par ailleurs, depuis le début du conflit, 14 hôpitaux de campagne ont été établis, 2800 camions d'aide humanitaire acheminés et 28 000 tonnes d'équipements médicaux et de produits d'hygiène livrés. Tzahal assure que ces opérations se poursuivront conformément au droit international. Les autorités canadiennes ont déjoué un complot iranien visant à assassiner un ancien ministre canadien de la justice, fervent défenseur d'Israël, alors qu'il préside actuellement un centre pour les droits de l'homme. Il a reçu le 26 octobre dernier un avertissement concernant une menace imminente contre sa vie. Deux suspects ont été identifiés. 7 personnes ont été tuées, dont un enfant, dans une attaque de drones russes contre la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. 12 personnes ont également été blessées dans l'attaque d'un drone contre un dortoir résidentiel. Par ailleurs, la Russie a revendiqué ce matin la prise d'un village près de Kourakové, dans l'est du pays. Et au millième jour de l'offensive russe contre l'Ukraine, Vladimir Poutine a signé ce matin un décret élargissant les possibilités de recours à l'arme nucléaire. Une annonce qui intervient après que les États-Unis ont autorisé Kiev à frapper le sol russe avec ses missiles à longue portée. Volodymyr Zelensky a réagi en affirmant que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas de lui-même. Emmanuel Macron a quant à lui déclaré sur X que cela fait 1000 jours que l'Ukraine oppose une résistance courageuse à une guerre d'agression illégale et injustifiable. 1000 jours que la Russie poursuit son dessein impérialiste et brutal en ciblant les populations civiles et en violant les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. 1000 jours que nous nous tenons résolument aux côtés de l'Ukraine et de son peuple pour faire triompher la liberté, la paix et la justice, a-t-il précisé sur X. L'Union européenne a annoncé hier avoir renforcé ses sanctions contre la République islamique d'Iran. Elles comprennent l'interdiction d'exporter, de transférer ou de vendre depuis l'Union européenne vers l'Iran des composants utilisés dans le développement et la fabrication de missiles et de drones. Téhéran a réagi en affirmant que ces annonces sont contraires au droit international et reposent sur de fausses allégations. Le ministre israélien des Affaires étrangères a quant à lui salué ces nouvelles sanctions. Elles sont des étapes nécessaires dans la lutte de la communauté internationale contre la menace iranienne qui constitue le plus grand danger pour la sécurité et la stabilité du Moyen-Orient, de l'Europe et du monde entier, a-t-il précisé sur son compte X. Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a organisé ce matin une réunion d'urgence des ministres des Affaires européennes sur l'antisémitisme. Face à la résurgence de la violence antisémite depuis le 7 octobre, nous devons collectivement renforcer nos outils numériques, judiciaires et éducatifs. C'est la défense de nos démocraties libérales européennes qui est en jeu, a-t-il tweeté. Dans l'actualité française, elle était la mère de Clarissa Jean-Philippe, la jeune policière de Montrouge, assassinée par le terroriste Koulibaly en janvier 2015. Marie-Louisa Jean-Philippe s'est éteinte en Martinique à l'âge de 58 ans. On en parle avec vous, Laurence Goldman.
Oui, il y a 4 ans, venue spécialement de la Martinique, Marie-Louisa Jean-Philippe avait assisté, entourée de ses sœurs et de ses cousines, au procès des attentats de janvier 2015. Sa fille, Clarissa, jeune policière municipale de 26 ans, avait choisi de quitter son île natale pour réaliser son rêve, devenir policière. Elle aurait dû d'ailleurs être diplômée peu de temps après sa mort et comptait passer ensuite le concours de la police nationale. Mais des djihadistes en ont décidé autrement. Le 7 janvier 2015, les frères Kouachi déciment la rédaction de Charlie Hebdo en plein cœur de Paris. Dans la soirée, Marie-Louisa, inquiète, appelle sa fille. Elle m'a dit « Ne t'inquiète pas maman, on a des gilets pare-balles », racontera-t-elle en 2020 lors de sa déposition à la barre. Clarissa Jean-Philippe est l'une des 5 victimes de Koulibaly, complice des Kouachi, qui le lendemain abattait la jeune femme à Montrouge, alors qu'elle intervenait pour un banal incident de la circulation. Le jour suivant, à quelques heures de l'entrée du Shabbat, le terroriste assassinait 4 clients juifs de l'hypercachère de la porte de Vincennes. 5 ans plus tard, s'ouvrait donc le procès des attentats de janvier 2015. Marie-Louisa, la maman de Clarissa, est une mère fatiguée et brisée par la douleur, mais une mère combattante qui a fait 7000 kilomètres depuis son île de Martinique pour témoigner au nom de sa fille. Cette femme digne et courageuse se battait contre 2 cancers qui s'étaient aggravés depuis la mort de Clarissa. Chaque année, dans sa commune de Sainte-Marie, où une plaque porte le nom de sa fille, elle assistait aux cérémonies des attaques terroristes des commémorations des attaques terroristes de janvier 2015. C'est toute une île qui rend aujourd'hui hommage à Marie-Louisa Philippe, décédée 2 mois à peine avant le 10e anniversaire de ces terribles attentats.
Merci Laurence Goldman pour ces précisions. Alors que le tribunal correctionnel de Paris a condamné hier l'auteur des menaces de mort contre l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel de Paris à une peine de 60 jours amende, la ministre de l'Éducation a réagi, c'était ce matin sur Europe 1.
Ah bah ça en impose quand même, ça en impose un peu beaucoup, c'est très impressionnant. Ça veut dire que j'ai pas intérêt à dire n'importe quoi, on ne trébuche pas avec un prix, c'est la limite. D'autant plus que je maintiens, je pense qu'on aurait eu des disputes homériques parce que On n'était pas d'accord sur c'est-à-dire on n'était pas d'accord sur rien, on n'était pas d'accord sur grand-chose, mais en tout cas, elle avait que des arguments que je trouvais extrêmement recevables. Et parce qu'elle est tellement haut dans le panthéon intellectuel, forcément, j'ai eu envie, et parce que je pensais naturellement ce qu'elle disait, de penser contre elle et donc forcément de penser contre moi. Et on aurait été d'accord sur la laïcité, on aurait été quand même d'accord sur pas mal de trucs. Mais voilà, c'est une figure qui en impose et c'est un prix qui est quand même aussi un devoir. Et puis merde, quoi, c'est Gisèle Halimi, quoi. C'est génial.
Et vous venez d'entendre la journaliste franco-iranienne Abnous Chalmani qui a reçu hier soir le prix littéraire Gisèle Halimi pour son roman « J'ai péché, péché dans le plaisir » publié aux éditions Grasset. Elle réagissait au micro de Laurence Goldman pour RCJ à ce prix qui lui a donc été décerné hier soir. Et je vous propose à présent d'écouter la ministre de l'Éducation Anne Genetet qui a réagi au micro d'Europe 1. Au tribunal correctionnel de Paris qui a donc condamné hier l'auteur des menaces de mort contre l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel de Paris à une peine de 60 jours amende.
Je veux vraiment répéter que je ne peux pas, évidemment, vous l'entendrez prendre, avoir un point de vue sur cette décision de justice, mais en revanche, je le redis, c'est un coup porté à l'éducation nationale, c'est un coup porté, et je crois que notamment l'avocat du chef d'établissement l'a dit, voilà, n'oublions pas, nos enseignants font un travail difficile, ils doivent être soutenus, ils sont régulièrement contestés. Hein. Aujourd'hui, c'est un enseignant sur deux qui dit avoir été contesté au moins une fois dans ses enseignements. Alors,
Et à noter que les menaces faisaient suite à une altercation entre le proviseur et une élève à qui il avait demandé de retirer son voile dans l'enceinte de l'établissement. Gisèle Pellico estime ce matin que le procès de ces viols est celui de la lâcheté, qu'il est grand temps que la société, je cite, machiste et patriarcale qui banalise le viol change, il est temps qu'on change le regard sur le viol, a insisté la septuagénaire, victime de viols répétés pendant une décennie par son mari qui l'a droguée et par des dizaines d'inconnus qu'il recrutait sur Internet. Le secrétaire national du Parti communiste a appelé ce matin le Rassemblement national à voter la motion de censure que compte déposer la gauche sur le budget. L'objectif, d'après lui, je le cite, mettre dehors le gouvernement. Fabien Roussel a par ailleurs annoncé que les députés communistes déposeraient prochainement une proposition de loi pour interdire les licenciements boursiers. Et enfin, on termine ce journal avec la chronique Expo de Raphaëlla Louis.
Je veux vraiment répéter.
Expo, Raphaëlla Louis.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous embarque dans un voyage cinématographique unique avec l'exposition Travelling, dédiée à Chantal Akerman, au Jeu de Paume, jusqu'au 19 janvier. Au programme, une contre-plongée dans l'univers intime et puissant de cette grande figure du cinéma et de l'art contemporain. L'exposition retrace le parcours de cette cinéaste incontournable à travers ses films cultes, des installations immersives et des archives rares. De Bruxelles à New York, en passant par Paris, chaque œuvre dévoile des thématiques chères à l'artiste, à savoir le voyage, la quête de soi et la mémoire. Vous pourrez revivre les moments clés de son œuvre avec notamment des extraits de Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, élu meilleur film de tous les temps par la revue Sight & Sound en 2022. Mais ce n'est pas tout. Le Jeu de Paume a concocté un programme riche en projections, performances et rencontres pour vous immerger encore plus profondément dans cet univers inclassable. Que vous soyez fan de cinéma ou pas, laissez-vous tenter par cette rétrospective exceptionnelle. Rendez-vous au Jeu de Paume jusqu'au 19 janvier. Bonne visite!
Merci beaucoup Raphaëlla Louis, Margot Siffer, midi 18 sur RCJ. Restez avec nous dans un instant, Aurélien Veil.
RCJ Midi, Elsa Parienté. Découvrez Et nous danserons encore, le nouveau livre de Sébastien Spitzer. L'écrivain a passé de nombreuses semaines au Forum des familles des otages en Israël. Il a écrit leurs histoires et dans ce livre bouleversant, fait résonner leur voix pour que personne ne puisse trahir ou détourner ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre 2023. Et nous danserons encore, les survivants racontent, de Sébastien Spitzer aux éditions Albin Michel avec le soutien de RCJ.
En Israël, chaque seconde compte. Sous la menace constante de missiles, le Magen David Adom est en première ligne pour sauver des vies. Ils ont besoin de vous, maintenant. Chaque don permet d'apporter des soins vitaux, de secourir les blessés et de protéger les civils. Faites un don aujourd'hui et devenez un acteur du sauvetage de vie en Israël. Rendez-vous sur mda-france.org.
mda-france.org.
Magen David Adom,
association au service de la vie.
Vous avez plus de 60 ans et habitez Paris ou l'Île-de-France? Vous avez besoin d'aide pour réparer une fuite, gérer votre administratif, vous déplacer ou vous sentir en sécurité à votre domicile? Le kiosque solidaire vous met en relation avec des professionnels fiables et bienveillants et vous accompagne dans la résolution de vos problèmes du quotidien. Plus de stress, plus d'arnaque. Contactez le kiosque solidaire, service du FSJU, soutenu par la Fondation pour la mémoire de la Shoah, au 01 42 17 10 80. 01 42 17 10 80. Parce que votre confort est au cœur de notre engagement.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 20 sur RCJ, nous sommes avec Julie Guesse, directrice de la philanthropie du FSJU. Bonjour Julie.
Bonjour Elsa.
Et écoutez, quand j'ai écrit ce lancement, je m'étais dit, bon, on était à un objectif d'1,5 million, on est passé à 1,8, et là évidemment, objectif 2 millions, il va être atteint dans quelques instants, et on encourage bien sûr nos auditeurs à continuer à aller sur actiondon.fsju.org, bien sûr. On en est où? Je vous laisse nous le dire.
On en est à 1 963 939 euros. Franchement, Elsa, voilà, c'est la cinquième année qu'on fait cette campagne qui dure 72 heures durant lesquelles les dons sont doublés. C'est la plus dynamique, la plus mobilisée, la plus fantastique, j'ai envie de dire, depuis le début. On était très inquiets parce qu'effectivement, on a beaucoup sollicité nos bienfaiteurs et nos donateurs depuis le 7 octobre. Ils ont fait preuve voilà, d'une générosité remarquable, d'un témoignage de confiance extrêmement fort. On a financé à hauteur de presque 10 millions d'euros Israël en moins de 15 mois. Et voilà, on repart sur une nouvelle campagne de la Tzedaka avec des objectifs très ambitieux, aller chercher plus de 3,5 millions d'euros en un mois, vous le savez. On s'est lancé 72 heures pour aller chercher 1,5 million. On va atteindre dans quelques instants, dans quelques minutes, les 2 millions. J'ai qu'un mot à dire, merci. Vraiment merci du fond du cœur, merci pour votre confiance. Merci à ces militants qui appellent depuis dimanche matin 8h et qui nous ont fait atteindre un chiffre incroyable aussi qu'il est important de noter. On a 4700 donateurs qui ont répondu présents en moins de 72 heures. C'est vous dire, voilà, la confiance, la transparence avec laquelle on agit pour faire en sorte que les donateurs nous suivent et nous témoignent de leur générosité. Donc on est très très heureux ce matin. Ça n'est que le début, puisqu'on va être ensemble au moins jusqu'au 16 décembre avec la clôture par le Palais des Congrès à Paris, où on attendra plus de 3500 personnes. Mais durant ces 4 semaines, on va faire en sorte d'aller collecter le plus d'argent possible. Je vous le rappelle, la campagne de la Tzedaka, c'est une aide à plus de 25 000 familles en situation de grande précarité en France. C'est de soutien à plus d'une centaine d'associations sociales. Et c'est de l'argent qui va directement avec une utilité absolument remarquable. D'ailleurs, à l'instant où je vous parle, nos équipes sont avec IDEAS. Vous savez que le Fonds social juif unifié et labellisé IDEAS, membre du syndicat de France Générosité. Bref, tout ça nous porte à 1 970 000 presque euros en moins de 72 heures. On est extrêmement contents de ce premier résultat.
La Tzedaka, on en a parlé pendant le Radioton, ce sont des projets concrets. Et hier, d'ailleurs, il y avait un goûter des bénéficiaires du programme Passerelle. On va écouter à un petit instant Denise qui est rescapée de la Shoah. Elle est au micro de Laurence Goldman.
Et quand mon mari est décédé, c'est là où j'ai dit... Bon, il faut que je me retrempe avec pas ma religion, parce que je ne suis pas pratiquante, mais me retrouver parmi les juifs, et d'avoir le rythme. Regardez, on a tous le sourire. Hein. Bon, voilà, c'est ce qui m'a fait que maintenant, tous les ans, voilà. Je suis là et présente.
Denise, vous le savez, en ce moment, c'est la campagne nationale de dons pour la Tzedaka et une partie des dons qui seront récoltés seront réversés à Passerelle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui vous écoutent à propos à la fois de ce service Passerelle et de l'importance d'être solidaire dans la communauté juive ?
Il faut être solidaire. Avec tout ce qui se passe actuellement, il faut être solidaire. Et si on demande si on a peur ? Non, on n'a plus peur. Pour ma part, j'ai plus peur. Voilà. La question est là et qu'il faut tenir. On a tenu tête. Alors, moi, j'ai eu 3 enfants et je me suis dit, c'est une pige que je fais à Hitler. Il voulait nous détruire. J'ai fait 3 enfants. Et ça, c'est ma revanche à moi. Voilà. Mais je sais que c'est minime, mais bon. C'est ça.
Julie, c'est ça, la Tzedaka, le FSJU, tout cet argent qui est engrangé. On entend bien sûr cette somme, c'est astronomique. Et se dire en même temps, c'est une aide très concrète à énormément de projets, de gens qui en ont absolument besoin au quotidien.
Qui en ont absolument besoin. Je vous rappelle quand même qu'on est dans un contexte inflationniste rare, que les familles ont des budgets qui sont dans le rouge à peine le 5 du mois, et d'ailleurs pour certaines d'entre elles, même dès le début du mois. Et donc on est extrêmement mobilisés à leur côté, à travers nos services sociaux et à travers les services sociaux des structures partenaires. Les demandes ne cessent d'augmenter. On le voit d'ailleurs de manière très très nette, puisque vous le savez, on a participé à un développement de réseau d'épiceries solidaires partout en France. On va bientôt, dans quelques jours, faire l'inauguration de l'épicerie du cœur Gilles Taïeb dans le 10e arrondissement, et évidemment qui a encore plus fort de sens. Elle a déjà ouvert cette épicerie, elle a déjà démarré, et on voit bien que partout en France, que ce soit à Strasbourg, à Marseille, à Lyon, à Nice et évidemment à Paris, les demandes ne cessent d'augmenter, les besoins des familles sont très très importants. Donc cette campagne de la Tzedaka, elle est très forte, elle est très importante. Elle joue sur les 4 tableaux, bien évidemment. Lutter contre la précarité, accompagner les familles en situation de handicap et bien évidemment s'occuper des personnes âgées isolées. On vient de le témoigner à l'instant. Alors je me permets juste de redonner le don, parce que si vous n'avez pas encore fait votre don, on a encore quelques heures pour qu'il soit doublé. Et évidemment ensuite pendant un mois tout au long de la campagne de la Tzedaka, actiondon.fsju.org, actiondon.fsju.org. Merci infiniment à tous les ambassadeurs et à tous les militants qui se sont mobilisés depuis dimanche matin. On a la chance d'être accompagné des meilleurs.
Julie, juste avant de nous laisser redescendre, retrouver les bénévoles et passer ce cap des 2 millions tous ensemble, je sais quoi les prochaines étapes importantes, dites-le à nos auditeurs.
Alors les prochaines étapes importantes, on attend toute la jeunesse, les 15-30 ans, samedi soir à l'espace Broca, puisqu'on va avoir une soirée cinéma exceptionnelle, samedi soir 23 à 20h à l'espace Broca, en présence d'Éric Toledano et d'Olivier Nakache, pour avoir la diffusion de 2 films cultes, Nos Jours Heureux est tellement proche, et d'ailleurs des scènes inédites de Nos Jours Heureux, moi j'ai hâte de les voir. Alors c'est un événement jeunesse, vous avez été très nombreux à nous demander si vous pouviez accompagner vos enfants. Non, vous ne pouvez pas, on les laisse tranquilles, les 15-25, les 15-30 ans, on les laisse profiter de cette soirée. Dimanche matin, on se retrouve tous dans le bois de Boulogne pour un grand running, évidemment, auquel est associé le collectif Courir pour les otages. On est plus de 700 à être présents dimanche matin. On sera tous évidemment avec un t-shirt très fort de sens, vous verrez, puisqu'on va courir évidemment pour la libération des otages. Mardi 26, on continue dans l'esprit sportif avec une soirée organisée par Cyril Benzakane et Emmanuel Ayache pour une soirée sportive, combattante, apprendre les premiers gestes qui sauvent, qui permettent de se défendre. On enchaînera ensuite le 1er décembre avec le Palais des Congrès, avec le dîner des parrains au pavillon d'Armenonville. On attend nos grands donateurs, on les en remercie par avance, ils sont très nombreux à s'être mobilisés, je crois qu'on est d'ailleurs presque complet, donc là encore c'est un grand temps fort. Et bien évidemment, le grand moment de la campagne de la Tzedaka, le concert de la solidarité, le 16 décembre au Palais des Congrès, qui est d'ailleurs pour tout le monde, je le rappelle, hein, il y a plus de 1000 billets qui sont offerts aux bénéficiaires. C'est aussi une façon pour nous de les remercier d'être présents et de pouvoir partager aussi ce temps avec eux. Je sais que c'est un moment qui est très attendu par les associations. Ils sont très contents de pouvoir offrir ces places à leurs bénéficiaires. Donc on les accueille tous et nos militants seront là pour les accueillir le 16 décembre. Et il y en a pour tous les prix, Elsa, puisqu'on ouvre les prix à partir de 25 euros. Et puis bien évidemment, le téléphone ne cesse de sonner, mais vous pouvez réserver sur tzedaka.fsju.org vos places pour le Palais des Congrès ou téléphoner au 01 42 17 10 08.
Merci beaucoup Julie, on vous retrouve bien sûr à peu près un jour sur deux sur cette antenne pour nous faire
merci
le point.
Merci à vous Elsa, merci pour tout.
Restez avec nous sur RCJ, on retrouve tout de suite Aurélien Veil pour son billet d'humeur.
Le billet d'humeur, Aurélien Veil.
Bonjour Elsa. 76 400 000 voix contre 73 500 000. Et 312 grands électeurs contre 226, soit 42 délégués de plus que la majorité absolue fixée à 270. Le 5 novembre dernier, la victoire du ticket républicain Donald Trump, J.D. Vance, face au ticket démocrate Kamala Harris, Tim Walz, est aussi massive qu'inattendue. La marge d'écart entre les deux candidats autorise à penser que le vote ce jour-là est davantage un vote d'adhésion à Trump qu'un vote de rejet de sa concurrente. Pour le parti républicain, désormais complètement dominé par la ligne politique et les partisans de l'ancien et donc futur président, la victoire est historique. En effet, le 5 novembre, le succès à l'élection présidentielle se double d'un succès aux élections parlementaires. Outre la majorité des grands électeurs et le vote populaire remporté par Trump, le Grand Old Party, surnom du Parti républicain, conserve sa majorité à la Chambre des représentants, 218 Members of Congress contre 212, et devient majoritaire au Sénat, 52 sénateurs contre 45 et 2 indépendants. C'est un fait quasiment inédit. Compte tenu des nominations effectuées à la Cour suprême par le président Trump pendant son premier mandat entre 2016 et 2020, les républicains disposeront à compter l'inauguration du futur président le 20 janvier 2025, du pouvoir dans l'ensemble des institutions fédérales, exécutifs, législatifs et judiciaires. Comment expliquer le retour gagnant du 45e président des États-Unis, malgré l'assaut mené le 6 janvier 2021 par ses partisans contre le Capitole, cœur battant et symbole de la démocratie américaine, et le soutien de la plus grande partie des élites, des médias et des intellectuels à son adversaire vice-président en exercice? Les causes sont multiples et portent à la fois sur le déroulement des élections, la stratégie politique des acteurs et le contexte intérieur et international. Premièrement, le choix initial de Joe Biden comme candidat, qui a contraint les démocrates à changer de prétendant en cours de campagne, quand le président manifestement trop fatigué pour exercer un nouveau mandat, s'est désisté en faveur de sa vice-présidente Kamala Harris le 21 juillet. La nouvelle candidate n'a pu mener campagne que pendant 100 jours, alors même qu'elle pâtissait d'un déficit démocratique, en ayant été désignée par l'ancien candidat et non sélectionnée dans le cadre de la primaire du parti. Deuxièmement, le sens tactique de Donald Trump. Le débat télévisé entre les deux candidats, organisé le 10 septembre, ayant de la vie générale davantage profité à Kamala Harris, Donald Trump a refusé par la suite un nouveau face-à-face pour éviter de s'exposer. Troisièmement, la capacité de Trump à communiquer et à produire des images chocs qui marquent favorablement l'opinion publique. Ainsi, le 13 juillet, quand il est victime d'une tentative d'assassinat lors d'un rassemblement politique à Meriden, en Pennsylvanie. Le 20 octobre, quand il se met en scène comme employé dans un fast-food, en Pennsylvanie encore, afin de conforter son image de proximité avec les classes populaires, au moment où Kamala Harris apparaît entouré d'artistes et de notables. Le 30 octobre enfin, quand il conduit à Green Bay, Wisconsin, un camion poubelle en réponse à une déclaration de Joe Biden comparant ses électeurs à des détritus. Ces images iconiques de l'ancien showman reçoivent de puissants échos dans la mentalité américaine qui entretient le mythe positif du self-made man, ce qui implique qu'il n'existe pas de saut métier. Après avoir évoqué les causes immédiates du succès républicain, il faut énumérer les causes plus profondes. Quatrièmement, l'économie. L'inflation, qui a explosé au printemps 2021, de 1,7% au rythme annuel en février 2021 à 5,4% en juin et une pointe à 9,1% en juin 2022, se maintient à un taux élevé de plus de 3%, provoquant une forte érosion monétaire, c'est-à-dire une perte significative du pouvoir d'achat pour les consommateurs. La politique monétaire est menée de façon indépendante par la Banque centrale, mais les démocrates sont tenus pour responsables des échecs et des limites de la politique économique et financière. Cinquièmement, les excès des démocrates. Le contrôle insuffisant de l'immigration illégale tranche avec l'importance donnée aux projets sociétaux touchant à la place de l'État dans la société américaine, et notamment à l'équilibre sacro-saint entre la famille et l'État dans la socialisation des enfants. Les démocrates ont ainsi semblé renoncer aux missions régaliennes, en faisant de l'attention aux idées woke, à la théorie du genre ou aux politiques DEI, Diversity, Equity, Inclusion, leur priorité symbolique. Ils ont donné aux électeurs l'impression de se focaliser sur les préoccupations des classes urbaines et éduquées, au détriment des classes populaires et rurales, qui ont rejoint Trump massivement. Les désordres répétés créés dans les universités américaines depuis le 7 octobre, où certains élèves occupent les campus, agressent camarades et enseignants, brûlent de concert le drapeau d'Israël et des États-Unis, le petit Satan et le grand Satan selon la rhétorique iranienne, ont fini de convaincre l'électorat que les républicains c'est l'ordre, alors que les démocrates c'est le désordre. Le choix final par Kamala Harris de Tim Walz comme colistier, au détriment de Josh Shapiro, gouverneur juif de Pennsylvanie, mal vu par l'air antisioniste de son parti, a fini de sceller son sort. En conclusion, comme l'a relevé Marcel Gauchet, Trump, c'est le retour du politique. Dans un monde que les États-Unis ont dominé et qui leur paraissait amical mais se révèle hostile, Trump est l'homme qui fait front face à cette situation que les démocrates ne semblent pas comprendre. Dans le contexte international incertain qui prévaut, alors que les États-Unis, avec leur nouveau président, plus que jamais pratiqueront à l'avenir une politique America First, à nous, Européens, de prendre notre destin en main.
Merci beaucoup Aurélien Veil, on se retrouve dans un instant sur RCG, restez avec nous pour parler du prix Clara.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais.
Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr.
Tzedaka.fr.
La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir.
Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux.
Découvrez le nouveau polar de Philippe de Paris, Styx. Ancien opérateur de la BRI, Philippe de Paris livre ici un thriller sombre, glaçant, sur l'envers du décor de la BAC et la difficile mission des policiers aujourd'hui. Son expérience personnelle, mêlée à la fiction, donne un récit fort et captivant. Styx de Philippe de Paris, aux éditions Au Trouble, avec le soutien de RCJ.
Depuis plus de 120 ans, le KKL reconstruit le pays d'Israël. Parcs, forêts, réservoirs d'eau, infrastructures, programmes éducatifs. En léguant tout ou partie de votre patrimoine, vous participerez au projet sioniste et laisserez votre empreinte en terre d'Israël. Contactez en toute discrétion le KKL et demandez Linda. KKL 01 42 86 88 88 et sur le site kkl.fr.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 35 sur RCJ, à notre invité pour parler du prix Clara, un prix littéraire de nouvelles pour les ados de moins de 18 ans qui aiment lire et écrire. Isabelle Lebré, bonjour.
Bonjour Elsa.
Vous êtes présidente du fonds de dotation du prix Clara. Peut-être pour ceux de nos auditeurs qui ne connaissent pas encore ce prix, nous dire comment vous le définiriez et comment vous avez décidé de le créer.
Alors, le prix Clara a été créé en 2006 après la mort de ma fille Clara, qui est décédée d'une malformation cardiaque grave de naissance totalement indécelable. Et lorsque nous avons voulu transformer la douleur en quelque chose de positif, plutôt que de rentrer dans le médical, ce qui n'est pas notre domaine, nous avons choisi de privilégier la passion de Clara pour l'écriture et la lecture. Et donc, nous avons créé un prix littéraire ouvert aux adolescents, sachant que l'objectif de ce prix était ensuite de financer l'association pour la recherche cardio du fœtus à l'adulte, qui est à l'hôpital Necker.
Quel type de récits, quelle résonance ont ces récits pour l'instant depuis quasiment 20 ans que ce prix existe maintenant et comment est-il apprécié à la fois des lauréats bien sûr, mais des lecteurs avec lesquels je suppose que vous avez un lien ou en tout cas des échos?
Oui, nous avons gardé d'ailleurs des liens très forts avec les lauréats, puisqu'ils sont maintenant plus d'une centaine depuis les 18 ans que le prix est remis. Et en fait, ce qui est formidable, c'est de voir que ce prix qui est ouvert aux ados de moins de 18 ans reflète vraiment la société et tout ce qui se passe à tous les niveaux. C'est-à-dire, c'est aussi bien le social que le politique, que le culturel, puisqu'on a des histoires de pirates au moment de la sortie du film Le Pirate des Caraïbes. On a eu beaucoup de styles de sorciers au moment d'Harry Potter. Mais nous avons aussi des récits sur dans la peau d'un migrant ou des filles contraintes. Et donc, ça reflète vraiment absolument l'année en fait écoulée au moment où nous recevons les nouvelles.
Le livre des nouvelles lauréates de cette année est sorti. Il a été préfacé par Amélie Nothomb. Le jury est présidé par Éric Orsenna. Et la remise du prix aura lieu demain à l'Hôtel de Ville à la mairie de Paris. C'est important pour vous d'avoir pu lui donner à la fois ce sérieux et ce prestige à ce prix?
Oui, c'est très important parce que d'abord c'est une participation des ados chaque année et c'est vraiment important de pouvoir faire vivre l'esprit de Clara à travers ce prix et surtout l'objectif final qui est de contribuer à la recherche en cardiologie. Puisque le fait de pouvoir continuer à faire évoluer le médical pour sauver d'autres enfants.
Et désormais, ce prix n'est pas qu'en France, mais aussi en Italie, en Allemagne, une dimension d'ouverture, une dimension européenne à laquelle vous tenez.
Oui, absolument. Nous avons développé le prix au travers de partenariats et surtout d'amis présents dans ces deux pays, l'Allemagne et l'Italie. Et ça nous donne une dimension effectivement européenne avec, nous espérons, des échanges. Nous avions déjà fait un premier partenariat avec l'Allemagne où des nouvelles du prix Clara servaient à l'enseignement du français en Allemagne, puisqu'en fait, les professeurs trouvaient que c'était vraiment bien de pouvoir étudier le français, et notamment que les jeunes puissent étudier le français à travers de textes écrits par des ados, plutôt que uniquement sur des textes un peu plus classiques, peut-on dire.
Est-ce qu'il y a peut-être un partenariat avec l'éducation nationale, quelque chose qui pourrait permettre une diffusion encore plus large? Est-ce que vous êtes à la recherche de ça? C'est quelque chose qui vous intéresserait de se dire aujourd'hui, avoir un regard des adolescents sur la société d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui devrait être connu peut-être encore plus largement?
Oui, nous avons effectivement démarché des associations de parents d'élèves, par exemple, puisque elles sont souvent très actives dans les écoles. Mais nous avons aussi beaucoup de professeurs de français, nous avons des CDI. En fait, c'est vraiment en fonction des personnes qui s'emparent du prix Clara, qui font parfois travailler des classes, parfois travailler que quelques élèves qui sont vraiment motivés. Mais nous avons vraiment un relais important à développer au niveau des établissements, c'est très clair.
Dernière question, j'ai vu qu'il y avait certains des anciens lauréats qui s'occupaient, en tout cas on me l'a dit dans un échange avant cette interview, de la communication sur les réseaux sociaux du prix Clara en ce moment. Est-ce qu'il y a aussi cet esprit de communauté qui est important à faire vivre au-delà de simplement l'écriture, il se passe quelque chose humainement?
La communauté des anciens, des lauréats du prix Clara est vraiment très très importante, effectivement sur les réseaux sociaux et également à travers un blog qu'ils ont créé afin d'aider des auteurs, des futurs participants qui ont besoin de conseils, qui cherchent des infos, etc. Et donc ils répondent très gentiment sur ce blog. Et moi de mon côté, je fais en sorte de développer le site internet Prix Clara, mais nous avons effectivement besoin de toutes ces participations et toutes ces collaborations, parce que c'est vraiment vraiment une grande famille, les lauréats du Prix Clara et les amateurs d'écriture, de lecture. On se retrouve tous lors d'échanges en fait, et c'est vrai que ne serait-ce que faire partager un livre, de dire tiens j'ai lu le Prix Clara, regarde, offre-le à tes enfants, ou tiens lis-le parce que tu vas trouver plein de choses intéressantes dedans, c'est vraiment le partage au quotidien.
Merci beaucoup Isabelle Lebray, présidente du fonds de dotation du prix Clara, d'avoir été notre invitée ce midi sur RCJ, et bonne remise de prix à vous demain, merci.
Merci.
Midi 42 sur RCJ, restez avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec Pierre Relquin, artiste peintre qui a une exposition en hommage aux victimes du 7 octobre en ce moment à la mairie du 16e arrondissement.
RCJ Midi, Elsa Parienté.
Participez à l'action don de la Tzedaka FSJU les 17, 18 et 19 novembre. Rejoignez-nous pour 72 heures de mobilisation intense.
Aux côtés de nos parrains Éric Toledano et Olivier Nakache, de nos ambassadeurs et militants, vous aussi, participez à cet élan de solidarité. Chaque don compte.
Unissons-nous pour faire la différence.
Les 17, 18 et 19 novembre, rendez-vous sur actiondon.fsju.org.
actiondon.fsju.org.
RCJ, la radio à l'écoute de votre vie, vous accompagne pour votre prochaine campagne publicitaire Spot Radio Parrainage. Contactez dès maintenant notre régie publicitaire au 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. Rejoignez la grande famille RCJ en devenant notre partenaire. Ensemble, faisons de vos projets une réalité. 01 42 17 10 15 ou par mail pub@radio-rcj.info. RCJ Midi, Elsa Parienté.
Midi 44 sur RCJ, nous sommes à présent avec l'artiste peintre Pierre Relkin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous exposez depuis hier à la mairie du 16e arrondissement, une exposition en lien avec le 7 octobre, 18 gouaches et 2 peintures à l'huile. L'inauguration avait lieu hier soir, le 18 novembre. Je voulais tout d'abord nous parler de ce chiffre, le 18, et de son importance pour vous en lien avec cette exposition.
Alors, en introduction, je dirais que j'ai été très bien reçu à la mairie du 16e.
Ça doit être signalé.
Et le maire, il y a sa part. Hein, Jérémy Redler, je le remercie par la voix des ondes. Mais je l'ai remercié hier soir puisque j'étais en sa compagnie. Donc je le remercie une nouvelle fois. Alors effectivement, cette exposition s'organise en 18 gouaches et 2 peintures à l'huile. Les 18 gouaches, c'est le jour de la tragédie. Le 7 octobre 2023 en terre d'Israël. Je précise bien, en terre d'Israël. Une première peinture évoque l'avant-pogrom, la liesse, la joie collective, etc. Et la frontière de Gaza qui n'est pas loin, et ça se voit dans la peinture. Je l'ai souligné. Une frontière un petit peu opaque d'ailleurs, un peu inquiétante. On ne sait pas vraiment ce qui se passe au-delà, mais il y a quelque chose qui se prépare. Il y a déjà une vibration, si vous voulez, de la végétation qui est prémonitoire. Et après, donc, ce 7 octobre, il y a une peinture très symbolique qui, elle, préfigure l'avenir. Un avenir, je ne sais pas s'il existera un jour. C'est peut-être la porte entrouverte sur le Gan Eden, sur le paradis, c'est-à-dire la concorde entre les hommes, la violence qui disparaît, etc., etc. Bon, ces deux peintures encadrent la tragédie du 7 octobre, et 7 octobre est rythmé en 18 ans. C'est une mesure à 18 ans, une mesure très compliquée, hein. On trouve dans l'art contemporain des mesures comme ça. 18 ans, pourquoi? Parce que quand j'ai fait ça, j'ai pensé à Chai, la vie, le signe de ralliement, l'appel à Dieu. Hein? Am Israël Chai, nous connaissons ça. Je me suis dit, 18, c'est très bien. C'est un très très beau chiffre symbolique et il faudrait que je fasse 18 gouaches. Je ne peux pas en faire 17, je ne peux pas en faire 19. Il faut que j'en fasse 18. Ce qui n'a pas été simple, d'ailleurs, je dois dire. Hein. En praticien de la peinture, on peut en faire 1, 2, 3, mais en faire 18, c'est autre chose. Il faut tenir le coup. Hein. Et en plus, il faut tenir les coups hein, meurtriers du Hamas. C'est encore plus dur. Beaucoup de sang, beaucoup de cris, de terreur, beaucoup d'amputations, beaucoup de malheurs, de la tragédie pure. Donc, j'ai assumé mon contrat, le contrat que j'avais passé avec moi-même. Donc, les 18 ont été faits. C'est ce que je propose dans cette exposition. Donc, ce chiffre s'articule autour de Chai. Chet Yod.
C'est cette violence du Hamas que vous évoquez qui apparaît par... Il y a un élément qui est très symbolique, très important, c'est le feu. On a vu ce feu mis aux voitures, mis au corps aussi, bien sûr. La mise à nu des corps, d'ailleurs, qui transparaît dans votre œuvre qui est exposée à la mairie du 16e. Il y a à la fois cette violence, il y a à la fois l'espoir que vous exprimez aussi, que vous avez mis sur d'autres tableaux. Est-ce que vous êtes entre les deux quelque part? Et est-ce que le 7 octobre, il vous a percuté dans cette ambivalence aussi, de se dire c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu, qui est terrible, et comment on peut arriver à penser, envisager l'après aussi?
Non, c'est quelque chose qui a déjà été vécu, et c'est une tragédie personnelle, très intime. C'est que mes grands-parents, d'origine russe, ont entendu les pogroms, les ont vécus, les ont subis. Donc il y avait une espèce de télescopage radical et très impressionnant, très bouleversant, entre le passé et le présent. Je me suis dit, c'est incroyable, tu es en train de revivre ce que tes ancêtres ont vécu eux-mêmes. Et sur une terre qui était vraiment le paradis pour les exilés de ces régions-là, des régions où on faisait des pogroms, c'était le paradis sur terre. Eh bien non, le paradis s'est métamorphosé en cauchemar. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Et je ne l'ai pas résolu, en fait. C'est une espèce de catharsis. J'ai pris mon pinceau et j'ai essayé de traduire ces espèces de retrouvailles, si vous voulez, avec les traces mnésiques de ce qu'ont vécu mes ancêtres.
Justement, vous parlez de cet effet cathartique. Pardon. Est-ce que, pour les gens qui ont assisté à l'inauguration hier soir, est-ce qu'ils vous ont dit aussi quelque chose d'une dimension peut-être thérapeutique d'être là ensemble, de voir vos œuvres, d'avoir quelque chose qui s'exprime là où il y a eu un sujet de... On n'a pas forcément les mots, on n'a pas eu les mots tout de suite après le 7 octobre. Est-ce que vous participez aussi à ça, à réconforter ou en tout cas à mettre du concret dans ces émotions qui sont parfois un peu inextricables pour certains?
Oui, j'ai apporté ma part d'artiste. C'est-à-dire que l'artiste, il joue avec la forme et la couleur. Nous avons énormément de gens très talentueux. Des éditorialistes, des politologues, des politiques, des intellectuels qui parlent très bien de toutes ces choses. Et d'une manière extrêmement documentée. Hein. Plus documentée que je pourrais le faire moi-même. Je ne suis pas professeur d'université en histoire contemporaine. Hein. Mais je l'ai fait avec mes pinceaux. Je me suis dit, ben, il faut absolument que l'artiste prenne sa part à ce témoignage, avec ses moyens. Eh bien, effectivement, il y a beaucoup de rouge dans tout ça. Et c'est assez ambigu, d'ailleurs, le rouge. Parce que le rouge, c'est gay. Les enfants adorent le rouge. Ils mettent du rouge dans leur chambre, sur leurs jouets, etc. Donc j'ai mis du rouge. Mais le rouge, chez moi, c'est le feu. C'est ce qui consume les êtres et les choses. Donc il a fallu que j'explique. Mais tout le monde avait compris avant mes explications. Parce que toutes les personnes qui sont venues là étaient très, très au fait de ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre. Donc j'avais pas besoin vraiment de donner d'explications. Mais il y avait quand même cette petite remarque. C'est très coloré. Oui, mais c'est la couleur du drame. Parce que le sang, c'est une couleur très vive et très attrayante pour certains. C'est le rouge plaît beaucoup.
Vous évoquiez le Chai, la vie, cette valeur numérique aussi, le fait qu'il y ait dans cette deuxième peinture à l'huile qui encadre l'œuvre quelque chose un peu de divin, de mystique. Quel lien pour vous entre la spiritualité, Dieu et ce qui a pu se passer le 7 octobre?
Mais je garde une minute de silence après votre question. Parce que quand on parle de Dieu, le discours devient extrêmement sensible. On n'a jamais de réponse définitive. Lorsqu'on introduit Akadosh Baruch Hu dans le discours, il n'y a jamais de réponse définitive. En fait, nous autres juifs, nous sommes toujours en train de questionner Dieu. Nous lui posons des questions. On lui dit pourquoi ça? Où étais-tu? Pourquoi tu as laissé faire? Est-ce que tu vas réparer et de quelle façon? Est-ce qu'on va te suivre? Est-ce que tu vas nous suivre? Toutes ces questions. Hein, mais nous savons qu'un juif, quand on lui pose une question, il a trois réponses. Hein. Et l'inverse.
Est-ce que c'était important pour vous, vous avez remercié la mairie du 16e et son maire, que justement cette exposition elle puisse avoir lieu dans une mairie, dans un lieu de la République et pas dans un musée ou dans un lieu juif?
Très important. Votre remarque est très importante. Je tenais à ce que ça se fasse dans un lieu public. Et nous avons eu le grand honneur de recevoir l'ambassadeur d'Israël, Joshua Zarka. C'était un très grand honneur qu'il nous faisait. Et j'étais vraiment très content. Et tous les gens qui étaient là étaient vraiment très contents de le rencontrer et de voir qu'il s'était déplacé exprès pour ça, pour cette modeste exposition. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. Il se déplace pas pour n'importe quoi. Donc, on était vraiment très satisfaits. Et lui aussi, il a regardé l'exposition. Je lui ai commenté les œuvres. Il a très bien compris tout ça. Il a beaucoup apprécié, d'ailleurs, ce qu'il m'a dit. C'est son témoignage. Je ne le trahis pas en disant ça. Et je tenais à le faire dans un lieu public. Il ne s'agissait absolument pas, si vous voulez, de flirter avec le commerce. En aucune manière. Nous ne parlions jamais d'argent dans cette affaire-là de vente et d'achat. Je ne voulais absolument pas. C'est un témoignage, point final. Ce n'est pas un objet qui doit être négocié. Donc, c'est un objet qui doit être commenté et regardé en profondeur.
Un grand merci, Pierre Elkin, d'avoir été avec nous sur RCJ. On invite tous les auditeurs et toutes les auditrices à aller voir votre exposition à la mairie du 16e. Et il me semble d'ailleurs que vous y êtes vous-même en permanence.
Oui.
Ils pourront échanger avec vous. Midi 53 sur RCJ, on retrouve tout de suite les recommandations médicales du professeur Timsit.
La chronique médicale, Marc-Olivier Timsit.
Chères auditrices et chers auditeurs, alors que je demandais à ma femme à Shabbat dernier si elle avait une idée pour ma chronique du mardi, elle me répondit
« Et pourquoi pas un topo sur les oméga ?»«
Oméga, les montres ?»«
Mais non, ben loulou, oméga, les acides gras, enfin !»
En effet, il y a quelques semaines, une étude menée à l'aide d'une base de données biologiques anglaise, la UK Biobank, a montré une association entre la consommation d'oméga 3 et d'oméga 6 et la réduction du risque de certains cancers. Les acides gras, qui constituent les unités de base des lipides, sont classés en trois familles. Saturés, insaturés et trans. Le terme de saturé ou insaturé se réfère aux liaisons covalentes des atomes de carbone qui sont saturés au nom d'atomes d'hydrogène. Cette phrase me rappelle d'ailleurs avec bonheur mes cours de biochimie de première année de médecine. Les acides gras saturés se trouvent dans les graisses animales, dans les viandes, dans le beurre, dans le lard, mais pas dans les poissons. On en trouve également dans la notoirement célèbre huile de palme. Ils ont tendance à favoriser les dépôts d'athérome, c'est-à-dire à favoriser les maladies cardiovasculaires et ne sont donc pas très bons pour notre organisme. Les acides gras insaturés sont, eux, essentiels à notre organisme et proviennent exclusivement de l'alimentation, en particulier des poissons et des huiles végétales. On distingue les acides gras monoinsaturés oméga-9 que l'on trouve dans les huiles d'olive, de colza ou d'arachide et les acides gras polyinsaturés que l'on trouve dans les huiles de soja, de colza, de noix pour les oméga-3 et en plus pour les oméga-6 dans les huiles de tournesol et de pépins de raisin. Ils sont depuis longtemps l'objet d'études car semblent réduire notre risque de maladie et sont par exemple les éléments essentiels du fameux régime cétogène qui consiste en une alimentation riche en lipides donc polyinsaturés, et pauvre en glucides et en protides. Enfin, il y a les acides gras trans qui sont purement industriels, sont des graisses et des huiles hydrogénées fabriquées pour être plus stables que les acides gras naturels et que l'on trouve dans les pâtisseries industrielles, dans certaines pâtes à tartiner, dans des parts de céréales. Évidemment, la mention huile hydrogénée sur l'emballage devrait absolument vous faire fuir en courant. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les effets potentiellement bénéfiques des acides gras polyinsaturés, les oméga 3 et 6, sur le risque de cancer. Il faut savoir que ces acides gras sont impliqués dans la régulation cardiovasculaire, dans la régulation hormonale, ils modulent l'inflammation, ils modulent l'activité des neurones, ils agissent en fait sur plein d'éléments de nos cellules. D'abord sur la membrane de nos cellules, qui est elle-même composée de phospholipides, mais aussi sur les voies de signalisation à l'intérieur des cellules et sur l'expression de certains gènes. De nombreuses études ont essayé d'étudier les effets d'une alimentation riche en oméga 3 et oméga 6 sur le risque de cancer, mais avec toujours un biais important, car il est difficile de mesurer précisément l'alimentation des sujets et surtout les facteurs confondants. Un sujet peut avoir une alimentation riche en poissons gras, mais aussi très riche en produits transformés et donc perdre un éventuel effet bénéfique des oméga ingérés. La force de l'étude dont vous parle mon épouse est que la banque de données comporte des prises de sang pour environ 300 000 patients avec la mesure des quantités circulantes d'oméga 3 et d'oméga 6 dans le sang. Les auteurs ont ainsi montré qu'avoir un taux élevé d'oméga 3 et 6 diminuait globalement le risque de mourir d'un cancer. Pour les oméga 3, la diminution du risque était surtout retrouvée chez les hommes mûrs et les fumeurs. Les oméga 3 permettaient de diminuer leur risque de cancer du foie, des voies biliaires, du côlon ou des poumons. Pour les oméga 6, la diminution du risque concernait surtout les femmes jeunes. Mais attention, comme à chaque fois, le diable se cache dans les détails. Premièrement, la diminution du risque retrouvé était faible, parfois extrêmement faible. Ensuite, certains cancers n'étaient pas affectés par la consommation d'acides gras polyinsaturés. C'était par exemple le cas du cancer du sein, de l'ovaire ou de l'utérus. Donc, pour une femme jeune qui se gaverait d'huile de pépins de raisin, eh bien cela ne diminuerait en rien son risque de cancer gynécologique. Et puis enfin, ces acides gras peuvent aussi avoir des effets négatifs. Cette étude montre par exemple que la consommation d'oméga 3 entraîne une légère augmentation du risque de cancer de la prostate. Et puis, l'étude a dosé les oméga 3 et 6, mais pas les autres acides gras, donc cela représente un biais important, puisque peut-être que les patients, tous anglais, avec un régime alimentaire anglais, consommaient par ailleurs plein de produits transformés et d'acides gras trans qui pouvaient annuler ou contrebalancer les éventuels effets bénéfiques des oméga 3 et 6. Des résultats intéressants donc, mais à prendre avec des baguettes comme les poissons gras. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite un très bon après-midi sur RCJ.
Merci beaucoup, professeur Marc-Olivier Timsit, midi 57 sur RCJ, la réflexion philosophique de Gabriel Alperne, c'est tout de suite.
La philo, Gabriel Alperne.
Une ville finit par être une personne, écrivait Victor Hugo. Cette phrase prend tout son sens lorsqu'on arpente Paris, Le Creusot, Marseille, Lyon, Strasbourg, Cholet ou Belfort. Oui, une ville finit par être une personne avec un caractère, des forces, des vulnérabilités, des rêves cachés et des ambitions avouées, des expériences qui la font grandir ou vieillir. Les villes ne sont pas seulement des personnes. Elles prolongent aussi nos propres personnes en jouant un rôle de metteur en scène, de décorateur ou de paysagiste de notre quotidien. Les territoires dans lesquels nous vivons, habitons, travaillons ou faisons du tourisme peuvent être le prolongement de nous-mêmes autant que nous sommes susceptibles nous-mêmes de les prolonger. Il s'agit peut-être de ce que nous pourrions appeler l'hospitalité réciproque, c'est-à-dire à la fois cette capacité d'un territoire à nous accueillir et cette capacité que nous avons, nous, êtres humains, de l'accueillir en nous, dans une forme d'hybridation qui conduit à une métamorphose réciproque. Cela fonctionne dans les deux sens, comme tout ce qui relève de l'art de la relation. Alors que le géographe Armand Frémont avait théorisé la notion d'espace vécu, le neurophysiologiste Alain Berthoz prolonge la réflexion en la complétant par deux autres notions, celle d'espace conçu et celle d'espace perçu. Il opère également une distinction entre espace aliéné, c'est-à-dire un espace que l'on ne pense plus, que l'on ne voit plus, auquel on ne prête plus attention, et espace vécu, un espace où l'on se projette et qui se dilate à mesure du développement de nos émotions. En mettant en perspective ces notions avec les travaux d'Henri Lefebvre, philosophe et urbaniste, des pistes de réflexion s'ouvrent. En effet, pour lui, il ne peut y avoir changement de vie, de société, de comportement, que s'il y a production d'un espace approprié. Il parle d'art de l'espace, c'est-à-dire que l'individu ne fait pas seulement vivre un espace, il le produit en quelque sorte par ses émotions et ses actions, par ce qu'il y projette également. Comme si les territoires n'existaient pas vraiment,